je parle de, des conflits du magnétisme, pas du magnétisme, mais de Tom, là. Bon, je pense que je vais parler de, en partie de ça, mais finalement beaucoup plus récemment. C'est-à-dire, il me paraît plus intéressant de parler de quelque chose de différent et de nouveau, puisque le livre, on a toujours le consulté. Et donc, je vais vous parler d'un travail que je suis en train de développer en ce moment, c'est-à-dire une étude extrêmement détaillée sur le plus célèbre voyant du 19e, c'est Alexis Didier. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a très longtemps que je travaille dessus, en fait. Et je suis en train de traduire tous les textes qu'il a fait, qui sont en anglais. Alors, pourquoi cela? Rapidement, je résume ce que j'ai fait. J'ai raconté l'histoire d'une bataille. Ça n'est pas que ça, mais c'est surtout une bataille. Donc, j'ai montré comment une nouvelle vision du monde, une nouvelle conception de l'univers, du psychisme humain, etc., a cherché à surgir à travers le mesmérisme, puis les sciences psychiques. Et comment, en 130 ans à peu près, tout ça a jusqu'à présent été régulièrement répété, écrasé, et jamais complètement, puisque nous sommes ici aujourd'hui et que donc, à nouveau, recommence. C'est une éternelle histoire avec des cycles. Alors voilà, j'ai montré ça, j'ai montré bien d'autres choses aussi, mais c'était le cœur, disons au moins, du premier tome, c'était de montrer ce conflit. Donc je vous rappelle très rapidement les grands buts. Donc le magnétisme naît avec Mesmer, et puis il prend une nouvelle bifurcation avec le marquis de Puységur en 1974, parce que les mesmériens pensaient qu'on pouvait produire des modifications physiologiques chez les sujets en mobilisant par la volonté une sorte de fluide qui était censé remplir l'univers et provoquer donc des modifications positives chez les malades. Mais ils n'avaient pas repéré un état étrange, ça s'appelle le somnambulisme, du moins, il n'est pas clair qu'ils n'avaient pas repéré d'ailleurs. Mesmer semble-t-il l'avait repéré, mais il ne savait pas quoi en faire dans sa théorie, alors il a laissé de compter. Et c'est un aristocrate, le marquis de Puységur, en magnétisant un de ses valets qui donc produit ce fameux état de somnambulisme magnétique. Il appelle ça par analogie un état connu, il ajoute magnétique, c'est une expression qui ne veut pas dire grand chose, mais qu'on a gardé. On a aussi gardé le terme de sommeil magnétique, alors que ça n'est pas du sommeil et que ça n'est pas magnétique. Mais c'est comme les soucoupes volantes, qui ne sont pas des soucoupes et qui ne volent pas. Une fois que c'est installé dans le langage courant, on s'en défait plus. Donc, les gens ont gardé cette expression, sommeil provoqué, magnétisme. Parfois, on parle même de magnétisme animal en général pour désigner l'état somnambulique. Alors, j'ai entendu ce matin qu'on avait voulu, si j'ai bien compris l'exposé, qu'un laboratoire américain voulait reproduire des phénomènes paranormaux en produisant certains états de conscience particuliers, mais ça, c'est ce qu'ont fait les magnétiseurs pendant plus d'un siècle, et demi. On produit un état de conscience parce qu'on sait que dans cet état de conscience, certains effets peuvent être attendus, pas de façon absolument régulière, mais semi-régulière. Voilà. Alors donc, une fois que Puységur a découvert les phénomènes paranormaux, si vous voulez, parce que c'est lui qui l'a découvert en fait, il y a eu un immense conflit qui s'est soldé par la défaite des magnétiseurs en 1841, puisque l'Académie de médecine a officiellement décidé de rejeter tous les travaux sur cette question. Attendre Charcot pour qu'on commence à s'intéresser à la forme la plus superficielle de ces questions, c'est-à-dire l'état hypnotique. Voilà, alors j'ai donc, pour raconter cette histoire, été obligé à brasser beaucoup et parfois mes oreilles m'ont sifflé sur l'air du qui trop embrasse mal étreint. Alors, puisque c'est comme ça, je vais me concentrer sur quelque chose d'extrêmement détaillé et c'est ce que je suis en train de faire. Donc je rassemble tous les textes. Sur Alexis Didier, je les ordonne, je constitue un corpus, je traduis d'anglais ce qui est en anglais, je mets les séances jour par jour, quand j'arrive à trouver la date, j'arrive à pister mon homme maintenant sur 10 ans, enfin presque jour par jour, parce qu'il faisait des séances très souvent. Et il a laissé une énorme quantité de documentation qui n'est pas d'un accès facile, mais qu'on peut remettre. Alors, quel est l'intérêt d'effectuer ce genre de travail? Ben, j'y vois moins un triple intérêt. D'abord, sur le plan anthropologique, les études sur la voyance ne manquent pas, mais il y en a très peu qui abordent frontalement la question de la voyance elle-même. Michel Boucaraï, si vous êtes présent, qui s'est intéressé à cette question dans le cadre du chamanisme, il y a la bandit qui a eu le courage d'aborder frontalement cette question. Mais le ton général des études anthropologiques, bien menées, c'est bien entendu la question de l'arrêté de la voyance n'emporte pas pour l'anthropologue ce qui intéresse, ce qui importe, c'est blablabla, etc., etc., etc. Et bien moi je dis non. Ce qui est intéressant pour l'anthropologue, c'est aussi la voyance elle-même. J'ai récemment eu l'occasion, dans une discussion comme ça, pour préparer un colloque avec des historiens du 19e et anthropologues, on faisait un tour de table pour donner notre point de vue. Alors j'ai dit, moi je travaille dans la violence. C'est vrai d'ailleurs, puisque nous sommes dans une guerre. Je travaille sur la voyance et ce qui m'intéresse dans la voyance, c'est la voyance. Ce que chacun avait dit avant, ce qui m'intéresse dans la voyance, c'est la circulation des énoncés, c'est les représentations qui sont investies, c'est ceci, c'est cela. Et moi j'ai dit, ce qui m'intéresse dans la voyance, c'est d'abord la voyance. Il y a eu un moment de silence dans la salle. J'avais franchi le Rubicon. Certaines personnes se trouvaient mal à l'aise à l'égard de moi après.
Il y a Dorothée aussi.
Oh oui, il y a un jésuite, mais il n'est pas anthropologue de statut. Il y a eu le fameux livre de Rosny sur les yeux de ma chèvre, vous savez. Un jésuite qui a décrit l'initiation à la voyance en cadeau. Très beau livre. Bref. Alors, première justification, donc je pense qu'on peut faire la démonstration, qu'on peut parfaitement faire une étude qui croise toutes les données anthropologiques historiques nécessaires et qui prenne en compte aussi la question de la voyance. Voilà. Deuxième point, c'est que je crois qu'il y a encore et toujours plus nécessaire de toujours redémontrer, de toujours prouver ces faits. Alors ici, je me heurte souvent à deux types d'objections. Il y a une première type d'objection qui est celle de François Fabre, qui partie, qui dit toujours, ouais, mais tout ça c'est prouvé depuis longtemps, théorisons, on tient que c'est prouvé. Alors je crois que ça c'est une des erreurs que nous commettons, nous je veux dire, communauté des gens qui s'intéressent à cette question, par rapport à ceux qui ne s'intéressent pas. Je vais vous donner un exemple pour faire comprendre. Je m'intéressais à une époque à la théorie de Reich sur l'accumulateur d'orgone, etc., parce que je faisais une comparaison avec Mesmer et son baquet de fluide. Alors si vous lisez une revue reichienne, vous allez trouver des savantes mesures sur l'orgone, comment les effets qu'elle produit. La question de la réalité de l'orgone ne se pose plus pour les reichiens. Ce qui intéresse, c'est d'affiner les calculs. Moi, j'avoue que j'ai du mal quand même à mettre l'orgone tel qu'il la pense. Et donc, si vous voulez, on a l'impression, quand on vient de l'extérieur, on dit voilà, c'est une secte qui s'est renfermée sur ses certitudes et qui a perdu contact avec le réel. Donc je pense malheureusement que lorsque nous raisonnons en disant c'est prouvé, théorisons, nous agissons comme ça et nous donnons cette impression à l'extérieur. Alors que nous avons une énorme quantité de matériel que nous pouvons mobiliser pour justement convaincre toujours davantage. Le noyau des gens convaincus, il faut essayer au moins de le conserver parce qu'il y a des moments où il s'étire, il s'effrite, ou bien si possible de l'étendre. Et donc je pense, troisième point, que la démarche historique est une des façons d'y parvenir. J'étais fasciné par les expériences qu'on a vues aujourd'hui, qu'a montré M. Béoc ou Marc Robis. Il y a une autre ressource, c'est l'histoire. Alors on me dit souvent, mais comment veux-tu arriver à prouver quelque chose avec des phénomènes si évanescents par la méthode historique? Alors, si on avait le moyen de savoir plus précisément ce qui se passe pendant que ça se passe, plutôt qu'après, ça se saurait. C'est le phénomène humain par excellence, c'est toujours reconnu après tout. Si par exemple, on aimerait bien savoir ce qui se passe au Kosovo actuellement, hélas, on le saura plus tard. On en a des idées, mais on découvrira exactement plus tard ce qui s'est passé. Donc c'est toujours après tout que l'esprit humain sert des réalités. Et je pense que sur ces questions très difficiles, un regard historique distancié peut être très efficace. Je vous donne un exemple, vous allez voir dans les exemples que je vais vous donner que pris cas par cas, on peut toujours suspecter ceci ou cela. Mais quand on a l'ensemble des éléments groupés sous les yeux, ce que les acteurs de l'époque ne pouvaient pas faire, par définition, hein, comme Fabrice à Waterloo, eh bien, à ce moment-là, ces hypothèses s'effondrent, deviennent logiquement insoutenables. Très difficile à soutenir. Voilà, donc les trois raisons pour lesquelles je suis motivé pour faire ce travail. Alors, j'en viens maintenant à mes héros. Alors, d'abord, le cadre historique. L'Académie de médecine a arrêté en 1941 d'accepter tous travaux sur le magnétisme. À partir de ce moment-là, les médecins qui s'étaient passionnés pour la question, en assez grand nombre en France, se rétractent. Ils ont peur de tomber sous le coup de leur. leurs collègues, d'être moqués, d'avoir des ennuis de la situation, et ainsi de suite. Et donc, il n'y a plus d'expérience, du moins, à l'intérieur de l'Académie de médecine. Car il faut rappeler qu'avant, il y avait des partisans ouverts du magnétisme à l'intérieur de l'Académie de médecine. Voilà. Donc, il y a une période de gel qui va durer sur le plan académique jusqu'à l'époque de Charcot. Vous voyez, c'est quand même assez long, hein, 41-78. Or, la malchance a voulu que c'est à ce moment-là qu'est apparu le plus étonnant des voyants qu'on ait connu. Il est arrivé exactement en 43, c'était un jeune homme donc de, à l'époque de quinzaine d'années, 16 ans. Alexis Didier donc est né en 24. Donc quand il surgit en 43, il a alors, ça fait moins que ça, non, 19 ans. Il est plus jeune alors, il est né un peu plus. Il a 15 ans quand il surgit, 16 ans je crois. Et donc comment il surgit, ben, comme souvent, alors il faut que je vous redonne encore le contexte. Il y avait un médecin qui était particulièrement combatif, qui voulait avoir la peau de l'Académie de médecine, qui était influent, qui était d'une redoutable intelligence polémique, qui s'appelait le docteur Frappard. Il était bien nommé. Et donc le docteur Frappard, effectivement, qui était un polémiste absolument prodigieux, avait défié avec plusieurs somnambules les médecins qui s'opposaient qui refusaient. Il y a eu des sortes de duels absolument incroyables autour des pouvoirs. On avait pris comme pouvoir type le bandeau, la lecture à travers les corps opaques ou les bandeaux. Bien. Alors, c'est lors de ces expériences avec Frappard, qui étaient des expériences publiques ou semi-publiques ou privées, selon les cas, que surgit un jeune qui monte sur scène, parce que comme souvent, il y a des gens qui se proposaient, et puis sur scène, tout de suite, on voit qu'il se passe quelque chose, c'est Alexis Didier. Alors, Frappard, malheureusement, est mort d'une crise cardiaque, je pense, à ce moment-là, et ce qui fait que il n'a pas été empoisonné, je crois pas. Ce qui fait qu'il a manqué, si vous voulez, la tête chercheuse, parce que c'était une intelligence assez redoutable, il a manqué la tête chercheuse pour diriger correctement Alexis. Son magnétiseur Marcier était un homme remarquable, ce n'était pas un intellectuel qui savait s'y prendre avec les gens de l'Académie, etc. Alors donc, Marcier, qui est un magnétiseur déjà connu à l'époque, repère ce jeune homme et décide de travailler avec lui. Alors, je cite les personnages. Donc, quand il apparaît, Alexis Didier est un jeune homme maigre, timide, effacé, et il a l'air maladif. Je pense qu'il était tuberculeux d'ailleurs. Il est mort prématurément. Et lorsqu'il est entré dans le sommeil magnétique, il a toutes les audaces, il est luisant d'intelligence, etc., etc. Alors, quand il est en sommeil magnétique, de toute évidence, il nie toutes les théories sur l'automatisme somnambulique qu'on développeront plus tard les psychiatres, puisqu'il est parfaitement maître de sa pensée, conscient de lui-même. Il a l'air complètement normal pour les gens qui discutent avec lui, sauf que sa pensée va plus vite que celle d'un homme dans son état normal. Tout est fulgurant, mais il a l'air normal. Il discute avec vous, il plaisante. Des fois, si on lui sert à boire, il lui boit. Il lui arrive même de manger pendant ses séances, quand il a faim. Il demande des points, un verre de vin, un casse-cou, parce que ça l'épuise beaucoup, il faut préciser. Voilà. Donc voilà Didier. Alors, il est de son métier, il commence une carrière d'acteur dramatique. Il a été propulsé sur le devant de la scène par Alexandre Dumas, qui fait partie des gens qui s'intéressent au magnétisme, et qui lui fait jouer dans des pièces. Donc il a déjà un succès comme acteur, mais alors sa carrière d'acteur va être écrasée par sa carrière de somnambule, et il va arrêter le magnétisme. Donc il va faire sa vie publique, si on peut parler comme ça, va durer de 43 à 55, hein, c'est-à-dire 12 ans. 12 ans pendant lesquels il va se mettre à la disposition absolument de tous les gens qui lui demandent la démonstration de ses pouvoirs, des grands de ce monde jusqu'aux ouvriers, tous ceux qui veulent le voir. Donc il fait plusieurs types de séances, des séances privées chez les grands de ce monde. Alors vous avez le roi Louis Philippe pour commencer, qui s'intéresse à ces questions. Vous avez le duc de Montpensier, vous avez l'infante d'Espagne, vous avez enfin, tout la haute aristocratie de l'époque. Aussi des écrivains, Victor Hugo, qui a fait une séance de lecture dans une boîte avec lui, Lamennais, Alphonse Karr, Georges Sand, etc. des médecins, enfin, mais les médecins gravent les murs en France. Et après les phénomènes extraordinaires que je vais vous lire, c'est quand même extraordinaire de penser qu'il ne s'est pas trouvé un homme de science réputé en France pour dire quand même ça ne peut pas laisser passer une chose pareille. Et il faut agir, il faut faire quelque chose. Alors, Marsillier, le magnétiseur, que je vais vous présenter après parce que c'est important tous ces détails, était un homme extrêmement fougueux, un battant, c'était de son état un officier de la garde royale, un sabreur dans la vie comme dans les sciences. Il voulait prendre le rationalisme au sabre, en quelque sorte. Et alors, il avait l'idée qu'avec son somnambule, ils allaient faire s'effondrer les théories scientifiques sur la nature du psychisme humain. Et c'était un homme très brouillon, très inorganisé. Il y a même des Anglais qui ont dit que c'était l'homme le plus inorganisé de la planète. Et donc, le dernier homme qu'on puisse suspecter d'avoir été capable de monter une machination pendant 12 ans. Parce que vous allez voir qu'en fin de compte, la seule hypothèse qui va rester, c'est la machination. Donc, Marsillier connaissait du monde dans l'armée. Il avait, je précise encore, il ne vivait pas de magnétisme. Il avait créé une entreprise de roulage. Dont il vivait fort bien, et le magnétisme il le faisait gratuitement pour démontrer, pour la gloire et pour la démonstration, et aussi pour les soins, il faisait aussi des soins. Et donc, il était réputé comme magnétiseur, il a vraiment un pouvoir magnétique important. Donc un jour, Marsillier rencontre le comte de Couteau, qui était l'aide de camp de Louis-Philippe, général du Couteau, qui s'intéressait aussi au magnétisme. Et il lui dit, voilà, Monsieur Burdin de l'Académie de médecine, il y a quelques années, avait créé un prix, je raconte toute cette histoire dans mon livre, le prix Burdin, qui récompensait d'une assez forte somme toute personne qui serait capable de lire à travers les gorges de Pâques. Donc c'est ce conflit-là qui a abouti en 1941 à la fermeture de l'Académie au magnétisme. Parce que, en réalité, ce qui s'était passé, c'était que la jeune somnambule qu'on voulait tester, Léonide Pigère, le père de la somnambule et les gens de la commission n'ont jamais pu s'entendre sur le type de bandeau qu'il fallait utiliser. Et donc, les expériences n'ont pas eu lieu, en fait. Et le magnétisme a été jugé sur des expériences qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais on s'est débrouillé pour faire courir la rumeur, bien sûr qu'elle avait eu lieu dans la presse rationaliste. Je démonte toute l'affaire en détail. Alors, le prix Burdin, à la suite de ça, est fermé, 41. Et donc, ce qui se passe, c'est que Marsillier commence à écrire au docteur Burdin, dans une lettre qui est parue en lettre ouverte dans les journaux, enfin que nul n'en ignore, il lui écrit en lui disant, voilà, vous avez jadis proposé un prix pour tester les phénomènes de lecture à travers les corps de Pâques. Eh bien, moi, je connais un jeune somnambule qui risque de pouvoir remporter le prix. Je vous demande de bien vouloir ouvrir ce prix afin qu'on établisse la vérité de la lecture à travers les corps de Pâques dans des conditions, car ce jeune somnambule est très supérieur à tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Monsieur Burdin ne répond pas. Bien entendu, pas. Là, ils ont rasé les murs, parce que déjà la réputation d'Alexis Didier était connue, on parlait de lui dans la presse. Burdin ne répond pas. Alors, Marsillier va voir la lettre de camp du roi, et il lui dit, est-ce que vous ne pourriez pas agir auprès de sa majesté pour qu'elle oblige l'Académie de médecine à étudier de force ces phénomènes. C'est l'avantage des systèmes de pouvoir royal, c'est qu'on peut faire des choses comme ça. C'est pas possible. C'est comme ça que sous Louis XVI avait obligé l'Académie de médecine à étudier c'est Louis XVI qui a décidé, autrement il n'aurait pas fait de même. Donc la chose était plus ou moins en train de se concocter, étant donné que le roi était favorable apparemment à Alexis Didier, et puis il y a eu la révolution de 1948 et tout est tombé à l'eau. Bon. Voilà donc les protagonistes, donc Didier, Marsillier, et alors je vous parle rapidement du don de Didier. Si vous voulez, vous avez des somnambules qui sont classiquement spécialisés, il y en a qui savent lire une lettre sur leur front, d'autres qui font de la vision à distance, d'autres qui vont faire du diagnostic des maladies. Mais lui, Didier, faisait tout. Tout, d'une façon assez étonnante, vous allez voir par vous-même. Il faisait, pouvait lire avec l'estomac, la nuque, le front, voir à distance, faire des diagnostics de maladies. Il savait tout faire. Et d'une façon qui me, à un moment donné, en esprit de doute, ça n'a rien à faire, c'est trop, ça paraît incroyable. Donc, à l'écoute qu'il faisait le plus fréquemment, par exemple, c'était de lire, on lui demandait, on arrivait qu'un livre fermé et la page non coupée, qui était amené par les sceptiques eux-mêmes, il disait, choisissez une page au hasard, alors on disait par page 25, il disait, bon, je vais lire 10 pages après la page 25, ou 5 pages après la page 25, ou je vais lire la page 25. Ou alors on lui disait, on ouvrait un livre au hasard et on lui disait, lisez 25 pages après, ou 8 pages après, et il lisait le texte. Pas le texte complet, mais suffisamment des phrases, des lambeaux de phrases suffisamment longs pour qu'il n'y ait aucun doute. Alors les gens se précipitaient, coupaient le livre et trouvaient le texte à la page indiquée. Alors, on a fait rencontrer Didier et Robert Houdin, c'était un grand moment. Et alors, d'après les textes, on a une disposition, mais je n'ai pas eu le temps d'approfondir totalement cette histoire à cause du fait que la BN, ce que vous savez, avec la Bibliothèque nationale. Et donc, les documents sont très difficiles à consulter. Et donc, Didier. Ah oui, alors avec Houdin, donc, il a fait le coup à Houdin, il a lu dans un livre, etc., etc. Et Houdin a écrit une lettre disant que ce que produisait Alexis Didier ne pouvait pas être produit par ses. Bon, il a fait des cartes, il a fait de la vision à distance, et en fait, après, il a lu dans un livre. Il est venu deux fois avec un deuxième fois, il est venu avec un autre précipitateur. Et donc, ça est paru dans les journaux à l'époque, et Houdin ne s'est jamais, à ma connaissance, rétracté sur ce point. Donc, le maître est somnambule face au maître des précipitateurs. Ça n'a pas empêché des gens de continuer à dire qu'il était un précipitateur plus doué que Robert Houdin. C'est normal. Voilà. Alors, parmi les choses qu'ils ont faites, qui sont sur lesquelles je travaille le plus, c'est le corpus anglais. Alors, Marcillier, il faut que je vous raconte les détails de l'affaire, parce que c'est ça qui est décisif, en fait. Marcillier était en train de faire une démonstration du magnétisme avec Alexis à Calais. Puis là, il voit les côtes de l'Angleterre, et il s'est dit, tiens, mais au fait, et si on allait porter la parole magnétique de l'autre côté? Alors, ils prennent le bateau, le lendemain, ils sont à Londres. Et ça ne traînait pas. Ils ne connaissent personne. Ils ne parlent ni l'un ni l'autre anglais. Ils connaissent une lettre de recommandation pour le docteur Elliotson, qui est l'éditeur d'une revue qui s'appelle The Zoist, qui est la meilleure revue de magnétisme anglais, très haut niveau d'ailleurs, et qui s'intéresse au magnétisme. Alors avec cette lettre de recommandation, Elliotson, qui parle français, leur dit, écoutez, vous voulez faire des démonstrations, mais moi je ne sais pas qui vous êtes, pas beaucoup. Je veux bien vous organiser une séance, mais je n'assume pas la responsabilité de ce qui s'y passera. Donc, je vais inviter des gens. Alors, évidemment, la contrainte, c'était des gens qui parlent français. Donc, c'était du gratin, des ducs, des cons, des médecins, vous voyez, de la bonne société. Et donc, les séances ont duré, sont restées, je pense, peut-être un mois en Angleterre. Ils donnaient jusqu'à deux séances par jour. Et certains jours, dans une séance moyenne, ils défilaient 15-20 personnes avec des paquets, des boîtes, des lettres scellées, etc. Et lui, il faisait la divination au débeauté au fur et à mesure. Il échouait parfois. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les Anglais notaient tout. Je dois préciser, entre parenthèses, la très nette supériorité des Anglais sur les Français sur ce point, vous bien reconnaître. Les textes en un Français va vous dire, nous avons fait un bandeau opaque, moins, puis nous avons commencé les expériences. Un Anglais dira, nous avons fait un bandeau opaque, puis une page complète de description du bandeau. Alors j'ai traduit tout ça, et ça donne des textes très très impressionnants. Alors je vais vous en lire un, c'est un peu long, mais je pense que ça mérite la peine. Et combien est-ce qu'il me reste de temps? Alors, je vous encore que je présente la personne maintenant qui écrit ce texte. C'est important, hein. C'est un révérend père qui s'appelle Chauncey Hertonshend. Et... j'ai trouvé sa bibliographie récemment à Londres, heureusement. Donc je sais très bien qui c'est. C'était un écrivain, un poète, un peintre, qui collectionnait aussi des micros. Enfin, c'était un homme qui s'intéressait aux sciences naturelles, un esprit un peu encyclopédique, et qui était un prêtre anglican, mais qui n'a pas pu exercer très longtemps à cause de sa maladie. Il avait une santé très fragile. Il était obligé d'abandonner son ministère. Et comme il faisait partie visiblement de la haute société britannique, il avait suffisamment d'argent pour vivre. Et il vivait entre Lausanne, en Suisse, et Londres. Mais il était beaucoup plus souvent à Lausanne. Et il est l'auteur de deux livres sur le magnétisme qui s'appelle Facts in Animal Magnetism, et puis un deuxième aussi, le magnétisme animal prouvé. Voilà. Donc, il a entendu parler d'Alexis Didier, et un jour qu'il est de passage à Paris, il essaie d'aller le voir. Et alors, la lettre, qui est un rapport très détaillé, c'est le résultat de l'entrevue. Donc, la lettre est datée du Lausanne, 25 décembre 51, et la séance a eu lieu probablement le mois précédent, en octobre. Et est adressée au docteur Eliotson. Mon cher Eliotson, j'ai pensé que vous apprécieriez pour le Zoliste le rapport 6 juin. Si c'est bien le cas, je le mets de tout cœur à votre disposition. J'ai pensé que je devais avoir le courage moral de défendre Alexis, que certains considèrent comme un simulateur, et de dire la vérité en laissant les gens penser ce qu'ils en veulent. Le récit qui va suivre se trouve en dessous de la vérité, plutôt qu'au-dessus. En effet, concernant ma propre personne et la dame mentionnée, je n'ai pu faire état de la moitié des choses étonnantes que j'ai dû entendre. Bien à vous. De passage par Paris, voilà le texte maintenant. De passage par Paris, j'ai vu Alexis le mois dernier, et les résultats de notre entrevue ont été si extraordinaires que je me sens obligé de vous les communiquer. Je dois d'abord préciser qu'étant donné les opinions divergentes concernant la clairvoyance d'Alexis, parce qu'il y a, faut que je dise aussi que tout seulement vu toujours et partout, a été ou sera critiqué comme similaire. On a dit ça aussi depuis. Donc, je dois préciser qu'étant donné les opinions divergentes concernant la clairvoyance d'Alexis, étant donné aussi que de nombreuses personnes le considèrent comme un pur et simple simulateur, j'étais plutôt venu avec des préjugés défavorables à son égard. D'autre part, j'avais pris toutes les précautions possibles pour qu'il ne puisse avoir de ma personne une connaissance susceptible de rendre compte des révélations qu'il pourrait me faire. Je devais rester à Paris une journée seulement. Ce jour-là, je me suis donc présenté en fin d'après-midi au domicile de M. Marcillet, le magnétiseur d'Alexis. J'ai attendu son retour dans son agréable appartement, et bientôt il est entré, accompagné par une splendide jeune fille, sa fille, que j'ai immédiatement reconnue comme l'original du beau portrait qui était accroché au mur. Je me suis simplement présenté comme un ami du docteur Eliotson, ce qui, en effet, est apparu comme un passeport suffisant, et j'ai donné mon nom, disant que je vivais à Lausanne, d'où je venais. Monsieur Marcillet, qui semble très mal parler l'anglais, s'est entretenu avec moi en français, et je me suis aperçu au passage qu'il semblait totalement ignorer que j'ai écrit un livre sur le mesmérisme. Assez vite, j'ai eu la conviction qu'aucun indice ne transpirait qui aurait pu lui donner des informations sur ma personne. Vous savez que je n'étais pas à Londres quand Marcillet et Alexis y sont venus, et que ce n'est que depuis peu que j'y ai un appartement. J'ai trouvé Monsieur Marcillet plus désireux de discuter que d'enquêter sur moi, et plein d'enthousiasme concernant le mesmérisme. Il m'a raconté quelques anecdotes intéressantes à propos de ses pouvoirs de magnétiseur. Par exemple, il m'a raconté qu'il a ramené à la conscience des personnes tombées d'une attaque d'apoplexie dans la rue à Paris. Il m'a montré un quotidien datant de quelques jours où était relaté un de ses exploits. Je dois dire que M. Marcillet m'a fait une impression favorable. J'en suis venu lui parler d'Alexis et j'exprime mon désir de le voir dans l'état magnétique. M. Marcillet m'a dit qu'il devait donner une séance avec Alexis le lendemain vers 10h. Malheureusement, ai-je ajouté, à cette heure, j'aurais quitté Paris. Je pars demain matin par le train de 7h pour Dijon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je signale qu'en 1851, on pouvait reprendre le train de 7h pour Dijon. J'étais très surpris d'apprendre ça. Eh oui. Ça a été très vite. J'ai répondu à M. Marcillet que je logeais à l'hôtel Wagram, rue de Rivoli, au 6e étage. Assis dans ma chambre située au-dessus des toits, une chambre qui semblait dominer tout Paris et qui donnait à l'infini sur les cheminées des immeubles, j'ai attendu la visite. Mais à laquelle j'osais à peine croire. Ah oui, j'ai oublié une phrase. Bon, a répliqué Marcillet. Alexis vit à quelques kilomètres d'ici, à la sortie de Montmartre. Et il sera probablement sorti au théâtre, car il aime beaucoup le théâtre. Avant, je n'ai pu le joindre. Je ferai ce que je pourrai pour vous l'amener à votre hôtel avant 9h ce soir. Si nous ne sommes pas là vers 9h, ne nous attendez plus. Quelle est votre adresse? Voilà, et donc il est dans son hôtel. Et Palan et Prudent ont résonné dans l'escalier. La porte est ouverte. Monsieur Marcillier est entré, accompagné d'un jeune homme, âgé de 27 ans environ, de taille moyenne et de maquille agréable. Voici ce grand gaillard. Toutes les phrases que disent Marcillier ou Alexis sont en français dans le texte. Donc, de toute évidence, la discussion a lieu en français. Voici ce grand gaillard, dit Monsieur Marcillier. J'ai réussi à l'attraper à temps. Et maintenant, pour ne pas perdre de temps, commençons, parce que Marcillier est comme ça. Vous magnétiserez Alexis vous-même, car je pense que cela va vous intéresser de vrai. Voyez dans quoi Marcillier, prenant Alexis par les épaules, l'appelle à asseoir dans un fauteuil. Je me suis assis à ses côtés, je lui ai pris les mains et j'ai commencé à le mesmériser. Après que j'eus effectué des passes pendant 2 ou 3 minutes, le visage d'Alexis a commencé à être marqué par d'étranges convulsions que je n'avais jamais vues chez aucun sujet. La vérité est qu'il a fait d'affreuses grimaces, mais ces espèces de spasmes n'ont duré que peu de temps. Il s'est calmé subitement, il est tombé dans un état de passivité, il a poussé un profond soupir. Pardon, ça y est, il est dans l'état... J'ai posé à Alexis la question habituelle, « Dormez-vous bien ?» Il a répondu, « Très bien. » « Et maintenant, dit Marcillier, je ne veux pas vous gêner. Je vais faire un tour d'horizon d'environ une demi-heure, et je vais vous laisser seul pour que vous posiez à Alexis les questions que vous voulez. À tout à l'heure. » Alors, commentaire, on accuse toujours le magnétiseur d'être de former avec le somnambule et un lieu de compère. C'est la seule explication possible dans les cas de ce genre. Donc, évidemment, Marcillier a compris qu'il avait affaire à un autre anglais quand même d'importance, et il fait la totale. Donc il dit, bon, vous débrouillez avec lui, moi je m'en vais. Il s'en va. Donc on ne peut pas suspecter cette collusion, puisque le magnétiseur est parti. Alors, c'était loin de me déplaire. Maintenant, je pensais, au moins, il n'y aura pas de collusion. Dès que Marcillier a été parti, j'ai commencé à tester la clairvoyance d'Alexis pour ce qui concerne la vision des endroits éloignés. Je lui ai demandé s'il voulait visiter ma maison par la pensée. Il m'a dit aussitôt, laquelle? Car vous en avez deux. Vous avez une maison à Londres et une autre dans la campagne. Par laquelle voulez-vous que je commence? Je lui ai répondu, par la maison de campagne. Après une pause, Alexis a dit, j'y suis. Alors, à ma surprise, il a ouvert les yeux et a porté autour de lui un regard fixe. J'ai vu qu'il avait le regard fixe d'un somnambule. Autant que j'ai pu m'en rendre compte, il n'a pas une seule fois changé la position fixe de ses paupières pendant tout le temps lui s'essayer à la clairvoyance à distance. Ses pupilles semblaient dilatées, ternes et ne manifestaient aucun mouvement d'activité consciente. Alors ça c'est quand c'est typique, ça, quand il fait de la clairvoyance à distance, il a le regard comme ça dans le bac, et les yeux fixes. Là il n'a pas mis devant nous, puisque ce n'est pas nécessaire pour lui. Bien, je demandais, que voyez-vous? Je vois, dit-il, une maison d'importance moyenne. Il s'agit d'une maison, pas d'un château, un jardin, une cour. Sur le côté gauche, il y a une maison plus petite sur la propriété. Tout ceci a été dit au milieu d'inspiration, avec quelques efforts et un allaitement entrecoupé chaque phrase. J'ai été surpris par la précision de cette première description de la maison que je possède près de Lausanne, particulièrement de la mention de la petite maison sur le côté gauche, où selon l'habitude suisse, habite ma concierge. C'est en fait un trait distinctif des lieux impossible à deviner pour quelqu'un qui ne les aurait jamais vus. L'exactitude de la description a renforcé ma conviction. Maintenant, je dis à Alexis, quel paysage voyez-vous? De l'eau, répondit-il avec précipitation, comme s'il voyait le lac qui en effet s'étale sous mes fenêtres. Puis, il y a des arbres en face tout près de la maison. Tout était exact. Bon, lui ai-je dit, nous allons pénétrer dans le salon. Qu'y voyez-vous? Il a regardé autour de lui et il a dit, quand je ne me souviens plus des mots exacts, je les donne en anglais. Vous avez de nombreux tableaux sur les murs, mais c'est curieux, ils sont tous modernes sauf deux. Pouvez-vous me dire les thèmes de ces deux tableaux? Oui. L'un représente la mer, l'autre est un sujet religieux. Sujet religieux en français. Devant cette précision extrême, j'ai ressenti une sorte de frisson. J'étais encore plus étonné quand Alexis a entrepris de me décrire avec minutie le sujet religieux en question, lequel se trouvait un tableau que j'avais peu de temps auparavant acheté à un réfugié italien et qui possède des particularités nombreuses et frappantes. Il a dit soudain, il y a 3 personnes sur le tableau, un vieillard, une femme et un enfant. Est-ce que la femme serait la Vierge Marie? Il s'est interrogé à haute voix, comme s'il réfléchissait. Alors là, c'est tout à fait typique du processus. Il arrive régulièrement devant des bifurcations. Et il parle à haute voix, comme ça. Puis, hop, il s'engage. Puis, je vais vous expliquer plus en détail après, quand j'aurai fini la lecture. Il s'est interrogé à haute voix, comme s'il réfléchissait. Non, elle est trop vieille. Il a continué de la sorte en répondant à ses propres questions, pendant que je restais parfaitement silencieux. femme a un livre sur les genoux, il continue donc, et l'enfant montre avec ses doigts quelque chose qui se trouve dans le livre. Effectivement, le tableau représente Sainte Anne en train d'apprendre à lire à la Vierge Marie et tous les détails de la scène sont corrects. J'ai demandé, sur quoi le tableau est-il peint? Alexis a répondu, ce n'est ni sur de la toile, ni sur du métal. C'est sur une curieuse substance. Après un moment de réflexion, il a commencé à frapper la table avec les jointures de ses doigts, comme s'il essayait de vérifier la nature de la substance en question. Alors il s'est exclamé, c'est sur de la pierre. Effectivement, le tableau a été peint sur du marbre noir. Maintenant, a-t-il continué, je regarde ce qu'il y a derrière. C'est une curieuse couleur entre le noirâtre et le gris, tout ça en français. D'ailleurs, le tableau, la pierre, a exactement cette couleur. C'est rugueux. Tiens, a-t-il ajouté, c'est bombé. Cette dernière particularité aurait convaincu le plus incrédule. Le tableau avait été difficile à encadrer à cause de la forme bombée de la plaque de marbre sur laquelle il est peint. Ensuite, Alexis a donné de nombreux détails précis concernant ma maison de Norfolk, Norfolk Street, c'est-à-dire son appartement à Londres. Il a donné une description exacte des deux servantes, l'une jeune et l'autre âgée. Il a dit que dans mes deux résidences, il n'invitait personne si ce n'est des gens de maison. Il a semblé prendre plaisir à décrire avec minutie la jeune servante qu'il trouvait jolie. Il n'a fait aucune erreur pour ce qui concerne la couleur de ses yeux, de ses cheveux, etc. Il m'a dit que derrière ma maison se trouvait un parc. Un parc qui toutefois ne vous appartient pas, a-t-il ajouté avec un sourire. Quand je lui ai demandé s'il voyait quelque chose de remarquable dans le style du mobilier, il m'a répondu « Remarquable si vous voulez, mais on le voit assez souvent, c'est du Louis XIV. » Puis il a décrit la bibliothèque qui jouxte le salon. Il m'a dit que les fenêtres du salon étaient des fenêtres en saillie, et il a décrit avec précision le cadre d'un miroir sculpté par Grenwyn Gibbons qui se trouve sur la cheminée. La glace, a-t-il déclaré, est petite en comparaison de la bordure. Il y a des fleurs, des fruits, toutes sortes de choses sculptées. Puis soudain, il a ajouté « Je vois un portrait qui se reflète dans le miroir », ce qui est vrai pour l'essentiel. Je lui ai demandé de le décrire. Il n'a pas commencé par donner le thème du tableau, mais il a semblé frappé tout d'abord par le portrait de la femme qui y figure. Elle a un corsage rouge, elle porte une râpée noire, plutôt brun foncé. Il a continué à décrire les deux enfants, puis soudain, il a déclaré « C'est aussi un sujet religieux, une sainte famille ». Je lui ai demandé le nom du peintre. Il a d'abord semblé perplexe. Puis il a dit, il est mort depuis longtemps. Finalement, il a murmuré une voix caverneuse, Raphaël, et s'est affaissé dans son fauteuil comme s'il était épuisé par quelque effort. Le fait est que le nom de Raphaël est écrit en lettres d'or sur l'ourlet du vêtement de la Vierge. Puis Alexis a décrit le tableau de chaque côté de la Sainte Famille. Puis il a ajouté sur la droite, il y a un thème marin, avec un orage. Sur le tableau de gauche, il a été plus long. Il a commencé par le décrire purement et simplement comme un intérieur. Mais, pressé par des questions, il a donné la description la plus exacte possible d'une œuvre de Morlan que, effectivement, j'ai accroché à cet endroit. L'intérieur de l'écurie, l'homme avec une brouette et le cheval gris couché sur le sol ont été décrits avec précision. Alexis a semblé prendre le cheval en pitié en ajoutant avec une étonnante touche finale à sa description en déclarant « Pauvre bête, il a des blessures sur les flancs ». Alexis semblait fatigué. Je lui ai fait quelques pas pour le soulager, puis j'ai entrepris de tester sa capacité de lire à travers des corps opaques. Je suis allé chercher dans la pièce voisine Jocelyn de Lamartine, que j'avais acheté le jour même. Je l'ai ouvert, et Alexis a lu quelques lignes avec les yeux fermés. Sitôt qu'on en a eu fini avec la vision à distance, il a refermé les yeux. Soudain, il a dit « Combien de pages plus loin voulez-vous que je lise ?» J'ai dit 8. J'avais entendu parler de cette faculté, mais je n'en avais jamais été le témoin. Il a alors lentement suivi avec ses doigts sur la page ouverte et il a vu à déchirer d'un doigt toute ma sympathie. Je me suis reporté 8 pages plus loin, à partir de l'endroit où le livre était ouvert, et j'ai trouvé exactement à l'endroit où le doigt avait suivi la ligne, le vers correct, à l'exception d'un seul mot, il avait dû déchirer au lieu de dévorer. L'incrédulité a commencé à me travailler, et j'ai réellement pensé que peut-être Alexis savait Jocelyn par cœur. N'oubliez pas qu'il est acteur. Alors, je suis à nouveau passé dans la pièce voisine, j'ai ouvert un tiroir, j'en ai tiré un grand livre que j'avais acheté le même jour, une sorte de magazine appelé Les Beaux-Arts. Au moins, ce livre-là, Alexis ne risquait pas de l'avoir appris par cœur, mais à nouveau, il a accompli le même prodige. Je ne me souviens plus de l'endroit exact que j'ai oublié de marquer, comme je l'avais fait pour Jocelyn, et je certifie qu'Alexis a lu dans cet ouvrage plusieurs mots, de nombreuses pages en dessous de la page qui était ouverte sous ses yeux. Alors, pour en avoir le cœur net, je suis allé chercher un livre anglais, The Inheritance, un intelligent roman écrit il y a quelques années par Mrs. Ferrier, et dans cet ouvrage, il a eu le nom de Gertrude, ainsi que d'autres mots qui se trouvaient quelques pages plus loin. Tous les livres que j'ai mentionnés n'ont été ouverts qu'une fois, et Alexis n'a jamais touché les feuilles, et n'a jamais pu poser le moindre regard sur les feuilles qui se trouvaient en dessous de celles qu'il voyait. N'oublions pas qu'en plus, il avait les yeux fermés. Ensuite, à la demande d'Alexis, j'ai sorti une lettre que j'avais reçue d'une dame récemment. Il m'a dit « Avez-vous une lettre d'une personne pour laquelle vous êtes intéressé ?» Je vous dirai quelque chose là-dessus, en français donc. La lettre se trouvait dans une enveloppe parfaitement opaque, Alexis. Je n'ai cessé de l'observer avec soin, n'a jamais essayé d'ouvrir. Il s'est contenté de la tenir tranquillement entre ses mains. Il a commencé par s'exclamer « Tiens, il y a un morceau d'un vieux journal dans cette lettre. » J'avais oublié ce détail, mais en y réfléchissant, je me suis rappelé que c'était le cas. Je vois, dit Alexis, les mots Brotherhood of Nations. Il a dit Brotherhood, parce qu'il déforme l'anglais, imprimé sur le papier. C'était bien le cas. Il s'agissait d'un article concernant la Société de la Paix que Mrs. T avait découpé et m'avait envoyé. Puis Alexis a déclaré cette dame vit dans le Suffolk, à tel et tel endroit. Avec un crayon que je lui ai donné, il s'est mis à écrire sur l'enveloppe le nom de l'endroit à l'exactitude. Ça, c'est ce qu'il fait quand vous lui donnez un texte dans une enveloppe. En examinant ensuite la lettre, je me suis aperçu que l'adresse, le nom, le lieu, Lodge, Suffolk, y était indiqué. Mais ensuite, merveille et merveille, Alexis s'est mis à me raconter toute l'histoire de ma charmante correspondante. Il m'a dit depuis combien de temps je la connaissais, en donnant de nombreux détails circonstanciés concernant cette dernière, ainsi que notre relation. Il a également donné des précisions sur le caractère de sa sœur, et pour couronner le tout, il a écrit toujours sur l'enveloppe le nom de famille, l'âge et le prénom de son père. Je vous montrerai, mon cher Hudson, la lettre et le texte écrit dessus, comme nous verrons. Mais il va de soi que je ne puis rendre public le nom de cette dame ni entrer dans les détails qu'il m'a révélé la concernant ainsi que ma famille. À ce moment-là, M. Marcillier est revenu de sa promenade. Et voyant que j'étais encore en train de questionner Alexis, il a proposé de se retirer à nouveau. Mais je l'ai invité à entrer, ayant suffisamment établi de fait pendant son absence pour exclure toute idée de complicité. Ensuite, j'ai posé à Alexis des questions le concernant. Mes sujets d'intérêt et finalement ma santé, je t'ai dit que c'était quelqu'un qui avait un problème de santé. Donc il m'a entretenu comme s'il me connaissait depuis toujours. Ensuite, j'ai posé Alexis des cartes. Il a parlé de sujets profonds et sérieux, et il a montré une tournure d'esprit plaisante, tournée vers les questions religieuses. N'ayant pas bien compris une question que je lui posais, il m'a assuré qu'il ne savait rien sur l'état de l'âme après la mort. Dieu seul le sait, déclara-t-il. Il est vrai, continua-t-il, que de nombreux somnambules prétendent faire de révélations sur la destinée post-mortem de l'âme, mais la preuve qu'ils se trompent est qu'il n'y en a pas deux qui s'accordent, tous donnent des versions différentes. Alors là, c'est très intéressant ce détail, parce que Alexis est sous la pression d'un groupe qui cherche à travers lui à démontrer l'immortalité de l'âme. Et apparemment, Alexis, quand il est dans son état de veille, croit à cette tâche. Mais là, en état de magnétisme, en réalité, il a des doutes. Il est plus lucide, donc il a des doutes sur cette question fondamentale, bien qu'elle le passionne, visiblement. Oui, de nombreux somnambules prétendent faire des révélations sur la destinée post-mortem de l'âme, mais la preuve qu'ils se trompent est qu'il n'y en a pas deux qui s'accordent, tous donnent des versions différentes. Pour ce qui concerne ma santé, aucun médecin n'aurait pu être plus précis. Il a décrit mon tempérament, etc., presque dans les mêmes thèmes que ceux employés par les médecins que j'ai consultés. En donnant ce rapport, je n'ai en aucun cas l'occasion de dire qu'Alexis a parlé de tous les sujets mentionnés sans aucune hésitation, ou d'une façon différente de celle des autres somnambules, laquelle est toujours pleine d'efforts et d'émotions. Une fois ou deux, il a fait des erreurs. Quelquefois, il m'a demandé de concentrer avec force mon attention sur ce que je souhaitais qu'il voie. Je crois, et M. Marcillier a souligné ce point, qu'une bonne part de mes succès proviennent de la façon de la manière patiente avec laquelle j'ai mené les tests et du fait qu'ainsi je sentais à l'aise avec moi. Je suis convaincu que si j'avais été impatient, suspicieux, prêt à monter en épingle la moindre erreur, Alexis aurait perdu sa clairvoyance et peut-être aurait tenté de la suppléer par des conjectures. C'est ce qui rend compte de la plupart des erreurs et de l'égarement apparent des somnambules. Nous ne sommes pas patients à leur égard, nous ne respectons pas les conditions requises pour le développement de leur lucidité. Mais un millier de faits négatifs ne peuvent rien contre un seul fait positif. Quand bien même Alexis se serait égaré partout ailleurs, le seul fait qu'il ait écrit mon tableau de Lausanne et qu'il m'ait donné le nom du père de Mrs. T, simplement en lisant mes pensées, ferait que je ne tiendrais pas compte de ses erreurs et seulement de ses succès. Alexis s'est éveillé avec les mêmes mouvements convulsifs et les mêmes grimaces que pour s'endormir. Quand il s'est levé, un petit moment après, il n'était plus le somnambule libre et naturel auquel j'avais eu affaire, mais un jeune homme timide et respectueux. Il était passé 10 heures, et quelques minutes plus tard, M. Marcillier et Alexis se sont retirés, me laissant méditer autant que je pouvais sur les événements de la soirée. Alors, moi, j'en ai à peu près une centaine de pages, tout ça. Bon. Alors, je voulais faire quelques remarques là-dessus. Alors, d'abord, la question de bon, donc le magnétiseur sortir, ce qui élimine la collusion. La question du bon, une bonne partie des polémiques autour des démonstrations en Angleterre ou en France a tourné autour du bandeau qu'on suspecte toujours d'être non opaque. Et Dean Wall, donc l'enquêteur de la SPR, qui s'était plus sceptique que les sceptiques pour accréditer sa cause, épouse cette idée. Alors en réalité, je le trouve de parfaite mauvaise foi, parce que lorsqu'on lit les textes anglais, je veux dire tous, on trouve de très nombreuses descriptions du bandeau qui sont implacables. On le voit bien, il est collé sur le visage. Dans certains cas, il faut amener de l'eau chaude pour l'enlever. Et on arrive qu'on arrache les cils du somnambule en même temps. On lui colle sur le visage. Bon, ici, il n'y a pas de bandeau. Pour une raison très simple, le révérend père est en voyage, donc il ne peut pas en fabriquer un. Mais de toute façon, il n'y en a pas besoin, puisque aucune des expériences qu'il fait ne le requiert. Alors, pour préciser qu'en Angleterre, la plupart des expériences ne requièrent pas le bandeau non plus, et les autres expériences. Le bandeau sert surtout pour la partie carte initiale, parce que toutes les démonstrations commencent par une joue à l'écarté ou avec des adversaires qui parlent régulièrement, et ils voient les cartes qu'ils ont, etc., etc. Mais ça, c'est pour se mettre en train. C'est un peu les gammes du pianiste. Voilà. Alors ensuite, une autre remarque, maintenant concernant l'interprétation des faits. Alors si vous voulez, j'ai fait un article récemment sur l'affaire du Titanic qui va dans ce sens. Vous savez tous, je suppose, l'histoire de Morgan Anderson qui a raconté le naufrage du Titanic dans un roman paru en 1898. Et le bateau s'appelle le Titan, il heurte un naufrage, il heurte un iceberg, il a exactement les mêmes dimensions que le vrai Titanic. Les raisons du naufrage sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a pas assez de canaux de sauvetage à bord. On veut battre le record de la traversée en fond dans le brouillard. Alors, il paraît qu'Anderson, d'ailleurs, aurait vu le nom du bateau, parce qu'il écrivait en trans, ça c'était un écrivain médiumnique. Toujours est-il que je ne suis pas satisfait par cette. Je ne peux pas personnellement homologuer ça comme un phénomène de voyance. Il faut être exigeant. Pourquoi ? Premièrement, les dimensions du Titanic, c'est probablement, j'en discutais avec une réunion qui n'est pas d'accord, on va discuter après de ça, le bateau idéal de l'époque, tel que la technologie, ou aux marges de la technologie. Et comme l'auteur du roman, Robertson, avait été marin, il est probable qu'il s'intéressait beaucoup à la technologie maritime et que donc il a mis dans son bouquin tout ce qu'il y avait de plus, les projets en quelque sorte de cette époque. Deuxièmement, un bateau aussi révolutionnaire ne peut être expérimenté que de Londres à, c'est comme le Concorde, on l'a d'abord fait marcher de Paris à New York, sur la ligne Atlantique Nord. Troisièmement, ce bateau aurait pu être insubmersible. Qu'est-ce qui peut le couler ? La seule chose qui peut le couler, c'est un iceberg. Où est-ce que peut être l'iceberg ? Évidemment, au large de Terre-Neuve. Quand ? Attends, parce qu'il y a le Titan coule au printemps de nuit. Quand ? De nuit, forcément, parce qu'autrement, on aurait eu l'iceberg. Pourquoi n'y avait-il pas assez de canaux à bord ? Ce qu'on croit comprendre, c'est qu'en fait, tout le monde faisait ça à l'époque, et que ça s'est su dans le cas du Titanic, parce que le bateau a coulé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, vous arrivez à ce que la chose se dissolve. Il y a un doute, hein, quand même, je dois le dire. Il y a un doute. Mais on ne peut pas, si vous voulez, de façon stricte, arracher cette histoire à la coïncidence. C'est-à-dire la voyance apparente, ou ce que j'appelle la voyance faible. Ça en épouse les processus, mais on ne peut pas absolument et certainement prouver que c'est de la voyance. Ouais. Voyance ou télépathie, j'entre dans le détail. Bon, alors, si vous voulez, dans le cas de ce que produit Alexis Didier, eh bien, on peut repérer les mêmes niveaux dans le récit. Moi, j'avoue que la description de la maison de Lausanne ne m'impressionne absolument pas. Pourquoi ? Les magnétiseurs insistent tous sur le fait que les somnambules sont des gens d'une extraordinaire subtilité qui parviennent à capter des choses à partir de signes infinitésimaux. Et donc, alors il y a deux hypothèses. Soit, en fait, Marseillais disait, a dit à Alexis, je ne sais pas qui c'est anglais, mais j'ai bien l'impression que c'est Elliot, que c'est Townshend. Que c'est un anglais, il avait des idées sur lui. Ça serait bien cet anglais qui serait la révérend père. Première hypothèse. Je ne crois pas que ce soit la bonne. Deuxième hypothèse, Didier a vu que c'était un révérend père. Ça sent parler, son vêtement, etc. Deuxièmement, il sait que le révérend père est riche. À quoi il a-t-il vu ? Apparemment, il ne travaille pas, il descend à l'hôtel Wagram de Tripoli. Fait partie de la bonne société, puis ça s'entend par sa façon de parler. Bon. Alors, est-ce qu'il aurait percé que. Mais on ne peut pas exclure que. Ben, il a dit au début du texte qu'il allait. Qu'il venait de Lausanne. Donc, Alexis sait qu'il habite. Donc, il voit l'eau, madame. Ensuite, on peut supposer qu'Alexis a déjà vu quelque part des illustrations de la Suisse qui y allait, je n'ai pas d'informations sur ce point. Mais ça ne bouleverse pas. Bien. On passe. De toute façon, quelle que soit la voyance qui est faite, le cadre, parce qu'il faut aussi savoir une chose, je vous expliquerai après plus en détail, le voyant part toujours du cadre général et entre de plus en plus dans des catégories pointues. Donc au début, forcément, c'est banal. Une maison, ça a toujours des fenêtres, un toit, etc. Propriété à des arbres. Ensuite, le tableau. Il peut se faire que. Il est deviné que c'était un collectionneur de tableaux. De toute façon, des tableaux, j'en avais partout à l'époque. Le choix du tableau, un sujet religieux. C'est un révérend père, un sujet religieux, ça aurait été extraordinaire. Simplement, il y a bien précisé qu'il n'y en avait que deux qui avaient des sujets religieux. Troisièmement, le nom du peintre. Alors, ça devient plus corsé. Là, il a repéré que c'était un tableau de Raphaël. Mais, je n'ai pas fait une enquête assez sophistiquée, mais on pourrait peut-être se dire que. Dans les intérieurs de révérend père au XIXe siècle, le tableau de Raphaël était de rigueur. Par exemple, si un voyant faisait une voyance pour une maison paysanne, disons, il y a 25-30 ans, et puis qu'il dise qu'il a vu l'Angélus de Millet, ça ne m'étonnerait pas du tout, vu que ce tableau était dans toutes les maisons paysannes. Donc ça ne me convient toujours pas. Bien, alors par contre, d'un seul coup, tout bascule quand il décrit la pierre bombée. Ah, alors là, on change de monde. Et puis ensuite, même chose pour le deuxième tableau, qui n'est pas un sujet religieux, c'est une description d'un intérieur, avec des nombreux détails circonstanciés, la brouette, le cheval avec les flancs percés. Alors là, on sort de. Là, on entre devant la multiplicité des possibles, et c'est pas possible que ce soit une coïncidence. Alors ensuite, lorsqu'on entre dans les tests de lecture à travers les pages, là, c'est radicalement impossible. Je ne suis pas statisticien, mais on devrait pouvoir calculer ça. La probabilité pour qu'il trouve au hasard un déchiré d'un jet toute ma sympathie doit être assez vertigineuse. Bon. Donc là, on sort. Alors il faut, si vous voulez, arriver à sortir des possibilités de voyance faible. Alors là, dans cette démonstration, on y est sorti avec ces cas-là. Le nom, aussi, lorsqu'il donne le nom du père de la dame qui a envoyé la lettre, etc. Là, il n'y a aucun doute. Alors, si vous voulez, à ce niveau-là, toutes les hypothèses habituelles sont éliminées, c'est-à-dire ça ne peut pas être un captage par hasard, un pompage d'informations, puisque le révérend ne dit rien. Ça ne peut pas être du compérage, puisque le magnétiseur n'est pas là. Ça ne peut pas être un tour de prestigitation d'Alexis, puisque, sauf à donner aux prestigitateurs des talents égaux à ceux des véritables somnambules, je ne vois pas comment c'est techniquement faisable. Donc il y a une seule hypothèse, une seule, c'est que le révérend père est complice.
Il n'y en a pas 36.
Bien. Pris séparément, pourquoi ne pas dire que le révérend père est complice lorsqu'on va voir sa biographie, on trouve assez. Alors j'ai oublié de vous donner un détail intéressant. C'était un ami intime de Dickens qui a été son exécuteur testamentaire. Ça vous situe un peu au niveau social et le personnage. Mais après tout, pourquoi pas on peut imaginer un ami intime de Dickens, révérend père, mais néanmoins inventant une fable pour asseoir la crédibilité du magnétisme et mettant sa respectabilité en jeu en inventant une histoire. Bon. Bien. Seulement, si vous voulez, c'est quand vous regardez l'ensemble des démonstrations anglaises, j'ai pointé le nombre de complices, puisque la plupart des épreuves qui sont données de ce genre sont de ce genre. Écrivez un tableau chez moi, lisez la devise latine qui est à ce que tout sur une machine, donnez-moi le nom de la personne qui m'a donné cet objet. Il y a un trucage possible, s'il n'y a pas de trompérage. Donc ça veut dire que tous les gens sont complices. Et alors je suis arrivé, rien que pour la première démonstration d'Alexis en Angleterre, à plusieurs centaines de comparses. Alors qu'ils sont arrivés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ne connaissaient pas la langue, nous arrivons là dans une impossibilité radicale. Et donc, si vous voulez, je crois qu'on ne peut pas démontrer cette sensu par des biais historiques de la réalité de ces phénomènes. Par contre, on peut montrer l'absurdité de toutes les thèses qui les contredisent. Par exemple, alors je cite de mémoire une formule de Hume, dit à peu près. La présomption que l'univers suit des règles fixes est plus forte que tout phénomène venant témoigner du contraire, hein, à moins que la fausseté de ces témoignages soit plus miraculeuse que les phénomènes que ces témoignages, enfin je reconstitue l'idée, prétendent évacuer. Vous m'avez suivi ?
Oui.
Bien. Ben là, on se trouve, je ne veux pas faire des mesures dans le miraculeux, ça me paraît difficile à faire, mais on se trouve devant quelque chose de... Comment est-ce que c'est concevable qu'il y ait eu un jeune Français de 17 ans qui ne parle pas l'anglais, avec un magnétiseur désorganisé qui ne parle pas l'anglais non plus? Comment aurait-il pu monter une affaire comme ça, sans que personne ne les prenne jamais? Donc j'en conclus que... c'est une démonstration contrario de la réalité de la lucidité magnétique. Maintenant, il y a un autre point intéressant, c'est ce qu'on apprend de ces processus. Parce que c'est une chose de montrer que ça existe, c'est une autre de voir comment ça marche. Alors, pour ce qui est des processus, je vous donne quelques exemples que j'ai repérés au fur et à mesure. Parce qu'on voit les choses se répéter sans cesse. D'abord, comment il fait pour deviner? Dans certains cas, il va directement à la cible, mais c'est rare en réalité. Quand les textes sont bien écrits, avec tout le dialogue, on voit ce qui se passe. Par exemple, vous lui mettez une bague dans une boîte CD. Il va commencer par dire, ah, il y a du métal. Il hésite un peu, c'est une bague. C'est une bague en or. C'est une bague en or sur laquelle il y a une inscription bizarre. Ah, c'est du latin. Ah, ça y est, c'est Fluctuat Nec Mervitur, ce que vous voudrez. Cette bague vous a été donnée par un monsieur qui s'appelait John Smith. Et alors, allez, c'est parti. Là, après, c'est l'âge du capitaine. Donc, il entre, si vous voulez, je ne sais pas comment on peut raccorder ça à tout ce qui a été dit, mais il part d'un cadre très général, hein, puis catégorie par catégorie, il focalise jusqu'à temps qu'il arrive sur la cible. Et quand il arrive sur la cible, c'est très souvent décrit, il arrive dans un état d'épuisement, avec une espèce de voix caverneuse, vous savez, comme un haltérophilis qui termine. Il est épuisé, il lui faut un moment pour récupérer. Voilà comment ça fonctionne en fait la voyance. Et donc c'est très intéressant à faire parce que ça a l'air de se donner comme de la vision et ça fonctionne comme le processus de la mémoire en fait. C'est-à-dire ce que décrit Bergson, on pense d'avoir un événement comme passé, puis dans telle catégorie du passé, puis on décrit comme ça par bon successif sur la cible, on cherche à se remémorer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit fonctionner tour à tour deux choses complètement contradictoires. Tantôt, il décrit un objet, je ne sais pas, on va prendre cette bouteille par exemple, un objet complètement familier, il va le décrire en détail, sans être capable de dire ce que c'est. Comme si la mémoire était partie, comme s'il était dans un état de perception pure, pour autant que ça puisse exister. Par exemple, j'ai en mémoire une description où il décrit sur un mur, je vois une espèce d'excavation curieuse. Dans cette excavation, elle est entourée de plaques de métal, de plaques de pierre. Dans le fond, il y a une étrange plaque de métal et il y a là-dedans une espèce de substance noirante qui sent mauvais. Il décrit une cheminée. Il ne reconnaît pas une cheminée. Bon. Et dans certains autres cas, vous lui donnez une cible. Par exemple, c'est typique de la lettre que le révérend père lui remet. Et ça ne peut pas être visuel, puisqu'il donne des informations. Ça, c'est ce qu'on appelle la psychométrie. Hein. Il donne des informations à partir de cette lettre qui ne sont pas de toute façon contenues dans la lettre. Donc, soit il s'hypnotise sur l'objet et il le voit comme jamais la mémoire ne peut le donner, hein, soit au contraire, il, à partir de l'objet, il le prend comme support et puis il part dans des choses adjacentes, propriétairement du propriétaire de l'objet. Enfin, ça peut s'arrêter, ça peut aller très loin comme ça, vous voyez. Donc ça s'arrête. C'est très curieux parce que c'est deux processus qui sont complètement opposés. Mais, encore une remarque et je termine. Dans certains cas, c'est quand même de la vue au sens où je vous défie pour un objet un peu complexe de structure, de, même si vous venez de le regarder comme ça, à fermer les yeux, de les décrire avec la précision que vous lui donneriez si vous avez sous les yeux. C'est impossible. Hein? C'est vraiment... Combien de temps ça va durer? Parce que lui, il le fait ça, il décrit des objets comme s'il les avait sous les yeux, qu'il n'a jamais vu. Donc si c'est de la télépathie, je pense que c'est une hypothèse à propos de la télépathie, s'il décrit l'image que quelqu'un, mentale que quelqu'un a, aucune image mentale ne contiendrait ces précisions. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des nombreux récits où, par exemple, il décrit un tableau appartenant à une personne, il donne un détail et la personne dit non. Ça, vous vous trompez. Et puis ensuite, quand on rentrait chez elle, la personne va voir, elle découvre que ce détail y était, mais elle ne l'avait jamais vu.
C'est l'histoire de la semaine.
Bon, bah, je vous remercie. Voilà, je termine. Oui.
Là, je pense que tu es un peu trop rapide avec l'hypothèse de l'hépatite. C'est-à-dire qu'il puise dans l'inconscient de l'individu qui est en face. Partiellement parce qu'on sait par les expériences en hypnose qu'on assimile, on prend beaucoup plus d'informations que ce qu'on accède consciemment. Donc on est tout à fait capable d'avoir avalé à un moment donné ou d'autre beaucoup plus de détails qui sont là.
Mais cette information peut être en nous sans que nous le sachions.
Oui. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que plus que je ne sais pas exactement le but de la présentation, c'est-à-dire si dans la présentation, tu voulais vraiment faire quelque chose qui était idiosyncratique, spécifiquement sur Alex Didier, ou si tu voulais faire des généralisations par rapport à ce qui est la psychométrie ou la voyance.
Non, là, je ne fais pas de généralisation. Je déduis des processus qui sont frappants qu'on peut observer chez lui. Je ne sais pas si on peut les généraliser.
D'accord. Donc, c'est une description spécifique par rapport à lui, dans
oui,
ce cas-là.
Je ne sais pas, je n'ai pas assez étudié la question pour savoir si on pourrait l'étendre. Hein. Mais c'est déjà intéressant de remarquer ça chez quelqu'un, quand on a beaucoup de textes et qu'on fait des comparaisons. Okay. Oui.
Deux remarques, en fait, tu les connais déjà, mais je les... La première, c'est qu'il faut beaucoup se méfier quand il y a une succession de détails qu'on donne. Effectivement, la personne peut lire dans votre esprit des jeux, et vous pouvez sans vous rendre compte donner des informations qui sont perçues de manière animale et qui en fait conduisent enfin, plus à des précisions qui ne sont pas dans le message communiqué. On peut envoyer des messages par échange avec le médium. Première remarque. La seconde chose, c'est que je ne sais pas si vous avez des dépenses paranormales de type voyance. Mais la plupart des gens les ignorent complètement, ces clichés de voyance, parce qu'elles se présentent de manière effectivement symbolique, c'est-à-dire absolument inanalysable, exactement comme un rêve. C'est-à-dire que le contenu du voyant, c'est généralement très proche du rêve, ce qu'on appelle onirique, et le rêve a souvent ses caractéristiques. On est dans un champ un peu cosmique, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout analytique, qui est global, et effectivement, c'est peut-être, dans certains cas, capable de découvrir.
Je voudrais faire une remarque justement à propos de ce que tu dis là. Même j'ai oublié de le dire avant. Souvent, on se représente la télépathie aujourd'hui, un peu sous l'influence de la psychanalyse, disons, comme une sorte de processus extrêmement archaïque, vers l'image, l'expression de représentations intellectuelles élaborées, abstraites, etc. Or, dans le cas présent, tout est possible. Donc, ça prouve que c'est beaucoup plus élaboré que ce qu'on croit. Ça dépend à quel niveau on l'apprend, la télépathie. Quand c'est chez quelqu'un chez qui c'est très éduqué, ça peut aller très loin. Et d'autre part, je trouve très peu chez Alexis Didier, il y en a bien sûr, je les ai soigneusement recensés, de voyance ou de par, à travers des processus allégoriques, symboliques, etc. En général, ça va sur les... Et ça, c'est parce que le milieu l'entraîne à aller sur les cibles. Il fait de la voyance vraiment qui a pour but de détecter les informations. Par exemple, il ne fait pas de précognition, tout simplement parce que j'ai jamais vu quelque nulle part personne qui pense à lui en demander. Tout simplement. Est-ce qu'il aurait été probablement incapable d'en faire si on lui avait demandé, mais personne ne lui demande. Oui.
Une question et une remarque. La question en règle sur ce dont il vient d'être, dont on vient de parler. Moi, je suis très frappé par la lecture de livre, page cachée.
Ah oui.
Donc, qu'est-ce qu'il y a du page du coin, dans la coin, etc. Je viens de prononcer. Pardon. Antoine Fèvre. La télépathie, hein, je crois savoir que c'est une information qui passe d'une personne A vers une personne B.
Enfin, c'est pas justement.
Pardon ?
Justement, c'est peut-être ça qu'on
non, mais, ignore. Non mais attendez, je commence par quelque chose de simple à ma portée pour ensuite vous répondre à la question d'une façon plus subtile. Mais là, il n'y a pas une personne A, il y a un objet dont personne n'a conscience.
Ça, c'est la voyance, normalement.
Voilà, c'est la voyance. Mais alors, tout est grave. La voyance, il y a deux sortes de voyance. Il y a la voyance de choses dont d'autres êtres humains ont conscience, et à la voyance de choses dont aucun être humain n'a conscience. Est-ce que là, il y a un vocabulaire, une notion, un concept particulier pour distinguer les deux voyances?
Mais disons que si on a discuté de ça aujourd'hui, on s'est épuisé pour arriver...
Non, alors, je suis arrivé en retard, excusez-moi.
C'est la clairvoyance pure, quand on essaie de faire quelque chose qui exclut d'autres hypothèses, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance pure. La clairvoyance pure.
Est-ce qu'on arrive à l'isoler?
Mais c'est très très difficile. Ouais. Il y a eu certaines démonstrations de la clairvoyance pure. Là, il est plus facile de démontrer ça que la télépathie pure. Et il y a eu certains cas suffisamment pour dire que ça existe en tant que phénomène.
Oui, parce qu'il faut arriver à ce que quelque chose soit, mettons, dans une boîte, mais qu'aucun esprit humain n'a jamais vu, et que ça a été mis dans la boîte par un générateur aléatoire, par une machine. Parce que si on donne quelque chose à quelqu'un, qui donne quelque chose à quelqu'un,
oui,
etc., au bout, c'est pour quelqu'un à vous. Oui.
Il semble me rappeler d'un cas, mais pas avec précision, mais c'était des informations qui avaient été données sur un événement ou une personne qui était très loin dans le passé, et dont les uniques... À l'époque, les uniques informations qui existaient dessus, à travers des encyclopédies ou des registres quelconques, étaient fausses. Et ce n'est que, je ne sais pas, quelques années après, qu'une nouvelle pièce d'information a été trouvée qui recoupait exactement ce que le voyant avait dit, alors que tous les autres, tous les vivants de l'époque, avaient une mauvaise information. Un événement qui s'était passé à la guerre ou un truc comme ça. C'était dans des séances médiumniques, je pense que c'était avec la SPR anglaise ou un truc comme ça. C'est dans cet ordre de domaines.
Ah, c'est avec le président de la Cour d'appel de Paris.
Vous avez une sonnette sur le bureau, l'autre dit que vous prenez au chien d'apprendre le son des trucs avec une sonnette.
Oui, mais il a peut-être capté. Il a peut-être capté un message télépathique de la femme de.
Oui,
il y a un être humain. Bon, évidemment, ça recule.
Mais son intervention, c'est une remarque et une question aussi, d'ailleurs, que je pose un peu à tous les spécialistes. C'est le type de discours, ce qu'on fait dire, ce qu'on lui fait, ce qu'on attend qu'il voit, ce qu'on est contre. On est intéressé de voir qu'il voit, Alexis, mais sur des choses très précises, très concrètes, très quotidiennes, des objets, des informations, un petit peu comme on fait devant pour des prestigitateurs devant le public, des choses très immanentes. Là, je n'ai pas fait moi d'enquête de statistiques, psychologiques, rien, mais... Tandis qu'en Allemagne, alors là, je connais davantage. En Allemagne, dans les mêmes époques, enfin les mêmes décennies, à peu près, peut-être un tout petit peu avant, et mais en gros, c'est tout avec ça aussi, au 18e siècle, il y a des gens comme ça que l'on met en état magnétique, et qui alors décrivent aussi, donnent aussi des informations de ce genre, mais en plus, on s'attend alors surtout à ce qu'ils parlent d'autres choses, c'est-à-dire d'autres niveaux de réalité. Alors ils décrivent ce à quoi faisait allusion à l'existence.
Voilà. Mais pas
complètement. Mais c'est très intéressant. C'est un Français qui, avec un certain, en rapport avec un certain type de personnes, dit non, ça, ça ne peut pas être. Ça concerne au-delà, etc. Le Français, c'est un discours un petit peu rationaliste. Et alors, en Allemagne, il y a des madames de Rapsonerie, enfin, elle est alsacienne, il y a Friedrich Hauffe, la voyante de Trévors, etc. Et là, tu vois aussi des choses à distance. Mais on n'insiste pas là-dessus, on essaie surtout de leur faire voir. Et j'ai l'impression de faire voir autre chose. Et l'expression même, magnétisme animal, dire magnétisme dans les pays germaniques aussi. Voilà. Je crois que ça évoque surtout autre chose. C'est autre chose, c'est-à-dire l'accès à d'autres mondes.
Ouais.
Hein, là, je réserve une distinction culturelle.
En France, il y a eu aussi des gens qui sont...
Madame de Vallière,
des
justement, ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette lyonnaise, donc des années 80, du siècle, hein, puis certaines crisiaques, par la guerre, enfin, que Guillermoz et certains autres étaient à ça reste relativement, je ne sais pas si je me trompe, c'est de la France, ça reste presque très minoritaire par rapport au fait que de l'autre côté du Rhin, ce qui est majoritaire, c'est un autre type de discours. Je parle du contenu.
C'est-à-dire que les Français veulent diriger ça sur des cibles, enfin, de faire une science expérimentale précise.
Oui.
Les Anglais aussi, d'ailleurs.
Hein.
Là, c'est vrai.
Alors, bon, moi, je suis personnellement plus intéressé par la description d'un dossier dans une boîte que par la description de votre monde. À mon avis, ça. Heureusement qu'ils ont fait ça d'une certaine manière.
Oui, non, mais Bertrand, moi, si, d'accord, je trouve que moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence des discours, les différences des intérêts.
Donc,
c'est les différences d'intérêts d'un pays à l'autre.
Ce qui prouve bien que ces facultés sont canalisées en partie par
voilà.
Sur les cibles, quoi. On désigne les cibles. Et vous avez d'autres questions? Oui.
On a. Non. C'est juste pour le situer dans d'autres. Il y a eu pas mal de personnes douées de cet ordre-là dans le 19e siècle, début 20e siècle. Daniel Douglas Hume, c'est un autre exemple de quelqu'un qui a fait des choses étonnantes que personne n'a jamais.
Comment il s'appelle?
Hume.
Le médium anglais.
Oui. Enfin, il est écossais et américain. Et il a fait des choses extraordinaires à son époque, que bien sûr il a eu certains qui disaient que ce n'est pas possible ainsi de suite. Il a fait un plein de lumière et il avait des témoignages de gens extrêmement sceptiques par rapport à cela.
Il faisait des phénomènes physiques aussi.
Des phénomènes physiques très importants, très importants. Et aujourd'hui, on est là, un siècle après, on dit tout simplement. Soit on dit que ce n'était pas possible, soit on dit que ce n'est pas intéressant parce que c'était passé, etc. Donc ma question est, par rapport à une analyse historique, c'est-à-dire qu'on regarde en profondeur un personnage, on essaie de comprendre vraiment ce qu'il a fait marcher, comment il a fonctionné, mais on se focalise sur cette personne-là, on l'écrit à fond. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, autre que l'intérêt d'un phénomène historique? De même, qu'est-ce qu'on peut en tirer, par exemple, des miracles d'il y a 2000 ans ou de, si on ne peut pas l'apporter à quelque chose d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il peut continuer, est-ce que finalement l'intérêt est intérêt historique ou socio-historique, ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on peut amener de là, autre que ces phénomènes incroyables, intéressants, que tôt ou tard, il y aura ceux qui vont nier et ils vont dire... Malgré 10 000 témoignages, je ne les crois pas parce que c'était impossible. Il s'est trompé. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sophistiqué, intelligent, etc. Il y a toujours ces arguments qui viendront. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
Il y a un point qui m'intrigue, c'est la disproportion entre cette époque-là et puis ceux qu'on veut se mettre tout le temps maintenant.
Oui, absolument. Alors,
c'est donc, pas si intriguant que ça. Hein. C'est simplement parce que, pour faire mon intervenir, moi j'ai travaillé avec un sujet qui était très bon. Pas aussi doué que ceux qui ont été mentionnés ici, mais j'en ai fait quand même une cassette, hein, donc, que je montre de temps en temps, mais c'est une cassette un peu privée, parce que comme c'est un sujet très doué, bah, il ne tient pas du tout à être médiatisé. Et je dois dire que lorsqu'on lui demande de faire de la voyance, que ce soit avec des enveloppes, que ce soit avec des photos, avec des livres, ou sur quelqu'un, ou même sur une simple carte de visite, il est très bon. Mais, médiatiquement, il ne veut pas du tout être connu. Alors évidemment, là-dessus, on est coincé. Mais pour répondre un peu à ta question, qu'est-ce qu'on peut faire de ces événements historiques ? Ben, à partir de la description de leurs dons, tu peux imaginer, le jour où tu vas retrouver quelqu'un qui va avoir un peu ce même type de don, comment tu peux arriver à lui faire faire des expériences qui vont ne pas trop contraindre sa personnalité. Parce que souvent, ils ont des conditions d'échec qui peuvent être assez faciles. Hein. Bah, par exemple, si on répète trop, ou s'il y a des sujets qui ne plaisent pas à une personne, donc ça va échouer. Donc à partir de la vie d'un certain nombre de bons sujets, on peut déjà avoir une idée des protocoles d'expérience relativement simples et efficaces que l'on pourrait mettre au point.
Justement, si c'est le cas, c'est pour ça que je demandais si c'est généralisable ou non. C'est-à-dire que si on rentre vraiment dans une signature très personnelle d'un voyant, d'un médium qui s'appelle Alexis Didier ou d'une autre personne, et c'est tellement spécifique à sa personne ou à son époque, parce qu'il est vrai qu'il y avait des choses qui étaient très étonnantes par rapport au 19e siècle, 18e siècle, et aujourd'hui on a très 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 mal à le trouver. Donc si c'est tellement particulier et spécifique, quelque part je pense qu'il faut faire un pas de plus que simplement le décrire, c'est-à-dire simplement de retracer quelque part son histoire et d'essayer d'extraire quelque chose qui peut être utilisable. Non pas parce que ce n'est pas intéressant de connaître la vie de cette personne, c'est extrêmement intéressant, mais parce que si toujours on a ces feux qui arrivent et après on laisse atteindre et après un siècle après on dit est-ce que ce n'est pas intéressant ces feux d'artifice, c'est incroyable, mais il y a une sorte de sens de non-continuité. Et ce qui nous approche, ce qui nous est approché très souvent, c'est justement ce manque d'un aspect cumulatif quelque part.
Il y a quand même quelque chose, je me permets de dire quelque chose aussi, au niveau de la culture d'une époque, qui fait qu'il y a y a quand même un champ social qui entoure des gens qui produisent des phénomènes psy à un moment donné. Il y a un champ qui est à la fois qui est intériorisé chez le sujet psy, qui lui permet la certitude et la croix, parce que les autres pensent qu'un tel phénomène est possible.
Alors,
et ce champ social, tu vas certainement nous en parler aussi, mais il est hyper important. Et ça même produit des phénomènes d'époque.
On remarque justement, on est en pleine guerre, hein, il faut qu'ils prennent, les magnétiseurs veulent prendre leur revanche après l'affaire de l'Académie, c'est la guerre. Celui qui dirige les opérations, c'est un ancien officier de cavalerie, un fonceur, un type volontaire, fougueux, impétueux, bouillon, mais qui veut en découdre. Et il s'est mis en tête qu'il allait abattre les résistances et qu'il allait démontrer, etc. etc. Et Didier lui-même, bon, il a beau dire, il croyait globalement à sa mission. Hein. Il faut préciser une chose, il s'est ruiné la santé, parce qu'il faisait ça des fois jusqu'à deux fois par jour, et il était de santé fragile, et ça a fini d'être obligé d'arrêter en 55, parce qu'il s'était probablement détraqué de la santé. Donc il s'est donné à fond dans cette tâche. Donc c'était extrêmement tendu comme ambiance, hein, et je crois que ça joue beaucoup aussi ce contexte. Effectivement, je pense que c'est la caisse de résonance du milieu qui
plus l'intention.
Voilà, le qui ne produit pas le phénomène tout seul, il est couplé à un groupe. Et alors une autre remarque, c'est Marion me demandait quel intérêt. Ben, à mon avis, il y en a multiples, mais d'abord, quand on voit ces phénomènes, on se dit, mais alors, il y a deux hypothèses possibles. Soit les phénomènes ont décru pour X, Y raison, ils étaient comme ça avant, soit c'est ils ont été mythifiés, comme on a se mythifié la matière mythique. Bon. Alors, à mon avis, l'étude historique devrait permettre, tu vois, sinon de trancher, du moins d'arriver à savoir. Alors, maintenant, si on arrive à savoir effectivement qu'on est obligé d'admettre que les tombes d'Iké étaient bien, au moins dans une large mesure, ceux qui sont décrits, alors ça veut dire que potentiellement la voyance peut aller jusque-là. Ça nous donne le terminus, comment dire en latin, terminus ad quem, hein, c'est-à-dire l'endroit où on peut, le maximum où on peut aller.
Alors, on a eu plusieurs fois ça, c'est ça que je veux dire.
Ça ne donne pas le maximum où on peut aller, mais ça donne le maximum qu'on est sûr au moins.
Voilà, ça permet de trouver le plafond connu.
On a un objectif à pouvoir éventuellement dépasser. Ouais.
Oui. Alors c'est très important ça, parce que comme je faisais remarquer tout à l'heure, là, à propos de la télépathie, les parapsychologues qui ont voulu s'enrichir de la psychanalyse, ça les a enrichis d'un certain côté, je ne dis pas ça, je pense à Joueur Siermel, etc. Mais par ailleurs, à mon avis, ça, moi j'ai assisté à des exposés de Joueur Siermel et j'ai trouvé les phénomènes qu'elle décrivait très pauvres par rapport à ceux que j'ai étudiés moi dans... Alors là, il faut que ce soit symbolique, il faut qu'on retrouve le travail du rêve. Il n'y a pas de travail du rêve dans les histoires d'Alexis. Il va directement sur la cible.
Dans la oui, mais à ce moment-là, tu partirais dans les tribus, dans les ethnies, dans les chamanismes, etc. Et tu trouverais des phénomènes d'envergure absolument intéressants aussi.
En travaillant sur un cas comme ça, ce qui est intéressant, c'est précisément de travailler sur l'épistémologie particulière. De voir par exemple cette pénétration spatiale progressive, cette orientation par arbre, et plus on a un dossier précis, plus on va voir comment il y a un certain nombre de phénomènes généraux et puis quel rôle jouent les facteurs culturels, quel rôle jouent les facteurs individuels. Bon, par exemple, ce dossier dont on parlait tout à l'heure, les aborigènes, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir plusieurs ethnies, de faire le recueil des termes de parenté et puis de s'apercevoir jusqu'à quel point ça peut varier, etc. Donc dans le cas de Didier, vraiment, tu vas pouvoir mettre de manière très précise, mettre en place ces différents types. Et comme tu nous as montré brièvement, il y a différents types de protocoles. Il y en a un qui est par exemple analogue à la mémoire. Ça, j'ai trouvé ça passionnant, de s'apercevoir que finalement, la voyance, ça fonctionne dans la mémoire. Parce que là, c'est une sorte d'inversion corporelle.
J'arrive pas à avoir très bien comprendre ce que signifie, mais ça me sera bon.
C'est une hypothèse. Après, on peut affiner. Et avec le dossier, je ne pense pas arriver à trouver des choses. Moi, je crois qu'au contraire, c'est le travail qu'il faut faire écologiquement. C'est-à-dire des cas très documentés, où on est le contexte culturel, où on est le plus d'informations possible sur les individus. Et puis, on décrit. Et après, on essaye de proposer des hypothèses. Et ensuite, on compare.
Mais même en admettant, comme tu as l'air de penser, qu'on trouve de l'idiosyncrasie, vraiment de la singularité, non généralisable, etc. Sur le plan de la science, effectivement, on voilà bien embarrassé, qu'est-ce qu'on va faire. Mais sur le plan de la philosophie, c'est fascinant.
Oui, c'est sûr.
C'est ça qui m'intéresse.
Si simplement je peux dire ça, je le disais plutôt pour évoquer, éliciter une réponse de toi, parce que je pense qu'effectivement il y a des choses à faire. Je donne un exemple concret, les travaux de Batchelder et de Brooke Smith, qui étaient spécifiquement de prendre un contexte culturel du 19e siècle, qui était le spiritisme, et d'essayer d'introduire les éléments les plus pertinents dans un contexte quasi expérimental, soutenu longtemps, et d'essayer de reproduire des phénomènes de cette époque sans les croyances qui allaient avec. Ça, c'était un travail qui allait au-delà d'un constat de quelque chose, et il tirait des conclusions, il disait, voilà, à la base de ces conclusions, ce qui est important, c'est cet aspect-là, cet aspect-là. On va créer un groupe de spiritisme, mais sans les présupposés de spiritisme, et on va voir si on peut introduire toutes les dynamiques psychologiques et reproduire le phénomène. Ce qu'ils ont fait.
Qu'est-ce que ça a donné?
Ça a donné des phénomènes très intéressants. Ça a donné un groupe de travail, si vous voulez, qui ont exploré plusieurs dynamiques. Il a précisé plusieurs dynamiques de groupe assez spécifiques qui facilitaient ou qui empêchaient le phénomène.
Ça a donné des phénomènes identiques au spiritisme. Des tables qui se soulèvent vers le plafond, des tables absolument gigantesques qui courent derrière.
Des plantes qui poussent.
Non, ça non. C'était sur
non, mais ça, ce qui se donnait, c'est les phénomènes avec un cadre psychologique qui est, disons, moins attaché à une croyance de l'époque. C'est-à-dire qui est plus généralisable et peut-être plus utilisable. Maintenant, il reste que, bien sûr, il y a d'autres groupes qui devait commencer pour reproduire, etc., pour aller plus loin. Mais c'est dans ce sens-là que je dis c'est cumulatif. Et je crois absolument qu'il y a des choses à voir au niveau de Alexis Didier, que peut-être il y a des choses à voir à quel point on peut intégrer quelque chose et faire...
Ce que je veux dire, c'est que bon, c'est le sujet sur lequel je travaille, mais il y a plein de... Là, il y a de très nombreux, oui, médiums extraordinaires, Madame Piper, par exemple, etc. Bon. Moi, j'ai un peu cette idée, je me trompe peut-être, hein, mais quand je vois l'extraordinaire ingéniosité que les historiens, les paléontologues, etc., ont déployé par rapport à traduire la pierre de Rosette, ou comment les paléontologues arrivent à faire parler une dent animale, vraiment... Je trouve que nous, on a complètement sous-exploité les archives dont on dispose. Et si on peut encore faire ce travail, hein, oui. Il y a vraiment des choses à tirer de ça.
On les a sous-exploitées à cause de présuppositions scientifiques ou scientistes.
Oui, mais il y a
un paradigme très particulier. Oui.
Encore des questions ?
Dans les services publics, on témoigne régulièrement de la production des
contrats. Oui,
on n'y va pas, voilà. Il y a deux sources. Il y a d'abord la source officielle, où régulièrement les cas des contrats qui sont rapportés, et pour certaines, des fois, une première fois, ils sont suffisamment critiques pour que le droit de la SPR soit assez beau, c'est la première année. Et d'autre part, alors, à l'intérieur du groupe de presse, il existe encore une communauté scientifique par le monde, des formations proches dans le cadre où il existe, il y a des cercles qui prétendent produire des nouvelles bases, et il y a même une expertise par les scientifiques eux-mêmes. Parce qu'il y a quelqu'un que je connaissais, qui est un bon ingénieur à l'heure actuelle, qui est un chercheur en pharmacologie de l'hôpital, qui par ailleurs est un scientifique, et qui a d'ailleurs toujours souffert. La entre les deux, mais qui a été appelé plusieurs reprises dans le monde entier pour expertiser les sols des populations.
Il
y a un outil qui prétend en produire en France, mais c'est un outil qui est beaucoup considéré pour très vite.
Mais on a un peu intériorisé un mépris contre les scientifiques, même chez les parapsychologues, et ça c'est dommage au fond.
Tu sais qu'il y a une catégorie de chamans yucatèques qui s'appelle spirituel. Donc le mouvement spiritique, ça aussi est semé dans les sociétés traditionnelles. Il y a un dynamisme beaucoup plus important qu'on ne pense. Ouais. Il n'y a pas uniquement le chamanisme traditionnel. Il y a des nouvelles formes.
Voilà. Je crois que je vois l'organisateur qui va dire quelque chose. Écoutez, je vous remercie tous. Hein. Je crois qu'il s'est... Il est en train de se passer quelque chose au niveau de la parapsychologie en France. Faut espérer que ce ne sera pas une énième résurgence vite succulée. Il faut faire que ça continue. Quoi.
Oui, voilà, donc c'est terminé pour cette fois. Merci à tous d'être venus.
Bravo.
Et puis espérons que peut-être l'an prochain on pourra recommencer une petite aventure comme ça et puis continuer à discuter de ces sujets.
J'aurais aimé aussi ici signaler que bon, tout le monde connaît le docteur Larcher, mais l'important travail qu'il a fait et qu'on continue. Et je dois que dire que c'est beaucoup grâce au docteur Larcher et à la suite métapsychique que j'ai pu faire mon travail.
Il faut dire aussi que l'Institut revit.
Oui, l'Institut métapsychique revit. Et d'ailleurs, vous aurez une documentation à la sortie sur la petite table sur l'Institut métapsychique international. Merci à tous encore une fois et puis à la prochaine. Au revoir.